Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour, nous sommes le mardi 18 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le Brief de l'Écho.
La semaine des 4 jours ne parvient pas à s'imposer dans les entreprises. Moins d'1% des salariés en ont fait l'expérience depuis le lancement de la mesure. Faut-il augmenter les recettes ou mieux contrôler les dépenses pour équilibrer le budget de l'État? Le débat n'est pas que politique ou idéologique, nous avons fait les comptes. Et puis la Chine redécolle pour le premier trimestre. La deuxième économie au monde affiche une croissance de 4,5%. Les ventes au détail et la production industrielle ont repris depuis la levée des restrictions liées au Covid. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief.
Le Brief, cette info, dès 7h.
Ça semblait pourtant une bonne idée sur papier, mais c'est un flop. On parle de la semaine des 4 jours. Cette solution devait permettre de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Elle a été imaginée par le gouvernement dans le cadre de son deal pour l'emploi fin novembre. Mais manifestement, elle n'a pas vraiment séduit les travailleurs. Selon Sécurex, à ce stade, moins d'un employé sur 100 et 0,6% des ouvriers ont opté pour cette possibilité. C'est clairement dans les plus grandes entreprises que la formule est quand même un peu plus répandue. Dans les entreprises comptant plus de 1000 personnes, 0,75% des travailleurs ont opté pour cette solution. Pas vraiment un raz-de-marée non plus. Au cabinet du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, on relativise. L'ambition n'a jamais été de généraliser la mesure, mais plutôt de répondre à une problématique que rencontrent certains travailleurs. En plus, c'est une mesure qui ne peut être mise en place qu'après concertation sociale au sein de l'entreprise, et donc à la demande du travailleur, pas si rapide et si facile à concrétiser donc. On en parlait hier avec notre invité, Michaël Petitjean. Pour équilibrer le budget de l'État entre recettes et dépenses, il y a plus qu'un débat d'idées ou d'idéologie. Dans son dernier exercice budgétaire, le gouvernement fédéral a réalisé un effort de 1,8 milliard d'euros sur 2 ans. Mais pour ramener les finances publiques à un niveau soutenable, la route est encore longue. Mais faut-il sabrer dans les dépenses ou plutôt relever les recettes? Le débat s'est enflammé ce dimanche. Premier acte, la chef de groupe Voreut à la Chambre, Mélissa de Pratereux, demandait un cadastre du patrimoine pour renforcer la taxation des grandes fortunes. Réponse de la secrétaire d'État au budget, la libérale Alexia Bertrand, le problème budgétaire belge vient moins des recettes que des dépenses enregistrées sur son tableau bilantaire. Bonjour Benoît Mathieu.
Bonjour.
Vous signez l'édito du jour, ces deux discours sont très marqués idéologiquement et selon vous, il faut parvenir à sortir de la logique comptable.
Il faut quand même préciser que oui, effectivement, la situation budgétaire belge est problématique et que donc un effort sera à fournir. Cela étant, c'est compliqué de se limiter simplement à couper un petit peu par-ci, augmenter un petit peu par-là, parce que à un moment donné, les recettes traditionnelles budgétaires finiront par ne plus fonctionner, et il va falloir, si on veut s'attaquer aux postes importants de dépenses, effectuer des réformes de fond. Le second point, c'est qu'en Belgique, on a vraiment du mal à évaluer l'efficacité des politiques qui sont mises en place. Donc avant de dire « il faut couper ceci, il faut couper cela », peut-être pourrait-on apprendre et se lancer dans l'évaluation des politiques qui sont mises en place. Ça permettra de mieux dépenser, de savoir ce qu'il faut conserver, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut changer. Et c'est quelque chose qu'on ne fait absolument pas. Alors on sait que face à tous les défis qui nous attendent, comme le vieillissement, la transition climatique et énergétique, on fera face à pas mal d'investissements à faire. Et si on ne se met pas à évaluer l'efficacité des politiques qu'il met en place, on est condamné à effectuer des erreurs et à ce que ça nous coûte plus cher que nécessaire.
Alors cette fois, c'est parti, ça décolle. Je ne parle pas de la fusée Starship, dont le lancement a été reporté hier, mais de la croissance chinoise. La Chine a annoncé ce matin une nette accélération de sa croissance économique au premier trimestre, plus 4,5% sur un an. Ça fait rêver. C'est le résultat de la levée des restrictions sanitaires anti-Covid qui ont paralysé l'économie chinoise pendant près de 2 ans. L'activité économique est clairement repartie au premier trimestre, en dépit d'un environnement international difficile et complexe selon le Bureau national des statistiques chinois. La Chine vise 5% de croissance cette année, un objectif qui pourrait être encore difficile à atteindre, selon le Premier ministre. Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont confirmé leur reprise en mars, plus de 10% de croissance sur un an. Ces dernières semaines, les Chinois retournent dans les restaurants, recommencent à prendre le train ou l'avion, contribuant à relancer les services. Et puis de son côté, la production industrielle repart également à la hausse. Seul bémol, le PIB du géant asiatique ne progresse que de 3%, loin de l'objectif officiel des 5,5% et l'un des rythmes les plus faibles depuis 4 décennies. Deux champions de la biotech en Europe se rapprochent. Alors d'un côté, Argenix, la société gantoise fondée en 2008. Elle est devenue une valeur phare du Belvin sur Euronext Bruxelles. Son action se négocie aux alentours de 354 euros contre 8,5 lors de son IPO à l'été 2014. Argenix a été boosté par les perspectives de vente de son traitement contre la myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune qui perturbe la communication entre les nerfs et les muscles, avec pour conséquence une importante faiblesse musculaire. De l'autre côté, on a Genmab, une société danoise spécialisée en oncologie qui a déjà développé avec le géant américain Johnson & Johnson un médicament pour le traitement du myélome multiple, un véritable blockbuster. Avec cette alliance, Argenix et Genmab auront désormais chacun accès aux technologies d'anticorps exclusives des deux sociétés, ce qui devrait accélérer la recherche car les entreprises sont complémentaires en termes de positionnement et de plateformes technologiques. Sonic s'offre les Angry Birds, en d'autres termes, Sega rachète le finlandais Rovio pour plus de 700 millions d'euros. On se souvient du slogan « Sega, c'est plus fort que toi », sauf que, au fil du temps, la force n'était plus tout à fait au rendez-vous et la société japonaise a donc dû réagir. Il y a un an, elle lançait une stratégie de super game avec deux objectifs, ressusciter d'anciennes licences et puis en créer de nouvelles aussi. Alors Thomas Casavecchia, chroniqueur jeux vidéo à l'Écho, nous rappelle qui sont ces deux acteurs du secteur et puis ce qui est en jeu surtout dans cette acquisition.
Sega aujourd'hui c'est un éditeur et un développeur de jeux vidéo. On leur doit les séries très renommées comme celle des Yakuza par exemple ou des Total War et bien entendu Sonic. Sonic c'est un jeu vidéo mais aujourd'hui c'est avant tout une licence cross-média. Donc les deux films sortis en 2020-2022, une pléiade de séries animées. Mais c'est essentiellement sur smartphone et sur tablette que les jeux Sonic cartonnent le plus. On comprend donc assez facilement pourquoi Sega s'est tant intéressé à Rovio. Rovio, c'est un studio finlandais, mais qui a sorti Angry Birds en 2009 et qui n'a jamais vraiment réussi à capitaliser sur ce succès. On parle quand même de plus de 5 milliards de téléchargements depuis 2009, donc c'est assez massif. Mais depuis, ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir de nouveaux jeux.
L'annonce a été plutôt bien accueillie sur les marchés où l'action Rovio a ouvert en hausse de 18% tout de même, même si l'accord devrait surtout profiter à Sega qui voit le jeu mobile comme une planche de salut. Le savoir-faire de Rovio devrait ainsi l'aider à introduire ses propres titres sur le marché mondial des jeux mobiles.
C'est un petit peu de jackpot pour tout le monde. D'un côté, Sega qui va pouvoir développer son offre sur jeux de smartphone et tablette. Il faut savoir que c'est un marché qui représente plus de la moitié du marché du jeu vidéo aujourd'hui. Et c'est aussi celui qui connaît la plus grande croissance. Donc c'est vraiment une situation win-win pour tout le monde. D'un côté, le studio qui est racheté, qui va pouvoir continuer à exercer ses talents. Et de l'autre côté, un grand éditeur qui va pouvoir capitaliser et développer sa stratégie mobile.
Tant qu'on est dans l'univers des geeks, sachez qu'Elon Musk a annoncé cette nuit qu'il comptait bien lancer sa propre intelligence artificielle. Elle s'appellera Truth GPT, Truth, la vérité. Le message est clair. Hier soir, le président français Emmanuel Macron s'est adressé à ses compatriotes dans une allocution solennelle, la troisième depuis la contestation massive contre sa réforme des retraites, un discours dans lequel on pouvait percevoir un léger changement de ton du côté du chef de l'État.
Cette réforme est-elle acceptée ? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé, et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements.
Mais cet aveu n'aura aucune conséquence puisqu'Emmanuel Macron l'a répété une nouvelle fois, ces changements étaient nécessaires. Mais le climat est toujours tendu car avant même qu'Emmanuel Macron ne prenne la parole, les syndicats ont refusé de participer à une réunion prévue aujourd'hui à l'Élysée. Et puis dans la rue, des concerts de casseroles étaient organisés dans les grandes villes pendant le discours du président. Alors Emmanuel Macron essaye pourtant de passer à autre chose et de mettre de nouveaux chantiers sur la table, plus consensuels sans doute, le travail, la justice, le progrès pour mieux vivre, mais du travail il en aura pour restaurer le dialogue avec les organisations syndicales qui ont pendant plusieurs semaines demandé à être reçues par le président pour pouvoir négocier la réforme des retraites, mais sans obtenir gain de cause. Alors le changement de gouvernance promis à plusieurs reprises depuis la crise des Gilets jaunes en 2019 va-t-il enfin être mis en œuvre? Sans surprise, les oppositions n'y croient pas, ni Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, ni à l'extrême droite chez Marine Le Pen. Alain Delon est non seulement un passionné d'art, mais il est aussi incroyablement fidèle en amitié. La preuve avec cette collection de 80 chefs-d'œuvre qu'il met en vente pour une estimation globale de 4 à 5 millions d'euros. Elle est présentée à Bruxelles chez Cornette de Saint-Cyr avant sa vente aux enchères. Le commissaire-priseur Arnaud Cornette de Saint-Cyr nous confie l'histoire qui le lie à Delon et puis il nous raconte aussi l'évolution de l'œil absolu de l'acteur.
C'est une histoire, d'abord l'histoire d'une rencontre, qui était la rencontre entre Alain Delon et mon père, qui était jeune commissaire-priseur, et tous les deux passionnés de dessins anciens, ce qui, dans les années 60, était une rareté, parce que c'était une chose qui n'intéressait quasiment personne. Et donc l'histoire est belle, parce que 60 ans après, c'est à la fois 60 ans d'amitié, et c'est aussi 60 ans de passion pour Alain Delon, qui a fait tout ce long cheminement intérieur pour passer des dessins anciens au dessin 19e, des dessins 19e aux grands maîtres modernes, des grands maîtres modernes à la sculpture, de la sculpture à l'abstraction des années 50. Il nous a fait l'honneur de sa confiance déjà en 2007, quand on avait vendu tous ces tableaux abstraits, ce qui avait été une vente absolument incroyable avec des records mondiaux dans tous les sens. Après, on a vendu sa cave de grand vin, parce qu'il finalement il boit assez peu de vin. On a vendu ses montres, on a vendu sa collection d'armes avec des choses assez mythiques. Là, ça, je ne sais pas que ça boucle un peu la boucle parce qu'il garde des choses et ce n'est pas du tout une volonté de faire table rase, mais c'est plutôt une sorte d'inventaire de ce qu'a été vraiment l'histoire de ses passions.
Exposé chez Baumans Cornette de Saint-Cyr à Bruxelles les 19 et 20 avril, la collection ira ensuite à New York, Hong Kong et Genève avant la vente du 22 juin à Paris. Laurent Fabry vous a donc accompagné pour ce brief préparé par Sunchim Courrier et il est très content de passer ce moment avec vous. Il vous retrouvera avec autant de plaisir dès demain. Allons bon, voilà que je me prends pour de long maintenant. Allez, à demain.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.